BPM, l'association de la semaine.
Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission l'association de la semaine. Aujourd'hui, je reçois Irène Leblon, présidente de l'association Parole d'âme. Irène Leblon, bonjour.
Bonjour.
On va commencer par présenter l'association. En quelques mots, quelle est sa mission ?
Alors, nous avons pour objectif d'accueillir, écouter et accompagner les personnes victimes de violences intrafamiliales et aussi toute personne qui peut subir de l'harcèlement scolaire, discrimination. Voilà.
C'est vous qui en êtes à l'origine de cette association ?
Oui, j'ai créé cette association par rapport aux besoins du Mantois et surtout sur la ville de Mantes-la-Jolie. Étant originaire depuis toujours sur cette commune, on a pu déceler les besoins et les attentes en fait de ces personnes.
Et ça fait combien de temps qu'elle existe ?
Alors ça fait depuis le confinement qu'elle a été créée, mais nous travaillons déjà auparavant en faisant du bénévolat, en rendant service aux gens afin de les orienter vers les organismes compétents.
D'accord. Et c'était au sein d'une association aussi ou c'était...
Non, c'était carrément du bénévolat, tout simplement en tant que citoyen. Hein.
D'accord. Voilà. Donc, elle a été créée pendant le confinement et justement, le confinement, ça fait grimper les chiffres des violences intrafamiliales notamment ?
Oui, malheureusement, cet isolement a fait que les personnes se sont retrouvées prisonnières de ce confinement, mais les violences se sont accentuées et là, la parole elle a été un peu libérée. C'était vraiment très, très difficile, compliqué pour ces femmes. Les enfants aussi, parce qu'on n'en parle pas assez. Malheureusement, il y a aussi des enfants qui ne sont pas des co-victimes, mais des victimes directes de cette violence intrafamiliale. Et donc, par le réseau, le bouche à oreille, ces femmes nous ont contactées et on les a orientées forcément vers les institutions qui étaient compétentes lors du confinement, le 39-19, pardon, le 17, qui est le numéro de la police nationale, qui est incontournable.
Comment vous expliquez le fait que les violences aient augmenté de manière significative lors du confinement ?
Alors, le fait que les gens soient isolés chez eux, donc d'être les uns sur les autres. Déjà, si à l'origine, il y avait déjà une certaine violence, que ce soit peut-être pas physique, mais psychologique, affective. Et puis, le fait que les enfants soient à la maison, non-stop. Chacun était dans cet emprisonnement, et ce qui a fait que grandir le stress. Et puis ça a généré des discordes, la dispute, et puis de la violence, malheureusement pour certains.
Avant de revenir sur le sujet, un mot sur votre association. Donc, vous êtes combien à œuvrer pour elle ?
Alors, nous sommes 5 bénévoles, voilà, actifs. Et nous organisons de façon suivante beaucoup d'appels, des mails. Nous avons un site là que nous sommes en train de terminer par rapport à l'information. Et sur ce site, lorsqu'une femme y va, ça efface l'historique, comme quoi elle n'est pas venue sur ce site. Si une personne de la famille revient sur l'ordinateur, elle verra une page de météo où elle reverra toute autre information par sécurité.
Et vous avez un local pour recevoir les personnes ?
Oui, tout à fait. Nous avons une permanence au sein de la clinique du lac, au Val-Fouré, au premier étage. Et on reçoit avec rendez-vous, mais il nous arrive qu'on nous oriente par un coup de téléphone une personne et on la reçoit dans la demi-heure qui peut suivre.
Alors, pour bien comprendre comment vous fonctionnez, donc donnez-nous un exemple du cheminement dès lors qu'une personne vous contacte.
Alors, la communication la plus active est le bouche à oreille, je ne vous cache pas. Sur Mantes-la-Jolie, comme c'est un très grand village, Donc, l'information circule, une personne appelle, on prend rendez-vous, on la reçoit, on l'écoute, on fait une évaluation de sa demande et de ses besoins. Et si c'est un conflit de couple, forcément, on ne s'en occupe pas. Hein, on va l'orienter vers des juristes, des avocats, voilà. Et lorsqu'il y a une réelle violence, on lui expose ce que dit la loi et les droits qu'elle a. Voilà. Et surtout s'il y a des enfants, voyez, l'impact que ça a directement sur l'enfant.
Et vous amenez la personne à réfléchir aussi sur ce qu'elle devrait faire, elle, par rapport au fait de quitter le foyer, par exemple ?
Alors, on n'incite pas la personne à quitter le foyer, parce qu'on n'a pas à influencer la personne dans sa position. On est, On n'est rien et personne, c'est elle avec sa conscience. Et la responsabilité en tant que femme et que parent aussi, quand il y a des enfants, j'accentue vraiment sur le fait de la responsabilité de la parentalité. Et d'aller voir un juriste, un médecin, psychologue pour enfants, sensibiliser ces femmes qui sont des mères sur l'impact des enfants. Et que c'est impossible. Nul ne peut être violent avec son partenaire. C'est inconcevable. C'est pas mettre en sécurité la femme et l'enfant.
Et donc, par rapport aux professionnels vers qui vous redirigez les victimes, c'est des professionnels avec qui vous avez noué un lien ou c'est que
Oui, effectivement. Donc après, nous avons le commissariat de Mantes-la-Jolie qui eux sont formés vraiment. Il y a une psychologue, il y a une assistante sociale. Et les officiers de police, lorsqu'ils reçoivent une personne pour une plainte de violence, l'orientent vers la psychologue et vers l'assistante sociale. Donc il y a un cheminement de prise en charge qui fait, ce qui est très bien aujourd'hui. Ensuite, il faut ne pas négliger les professionnels de la santé. Allez voir directement votre médecin généraliste, qui peut vous orienter vers un psychanalyste ou un pédopsychiatre ou un psychiatre. Afin de ne pas rester dans cette situation, parce que la femme victime de violence doit vraiment se ressaisir et reprendre sa vie en main. C'est très important pour qu'elle puisse se reconstruire.
Et du coup, l'accompagnement, il est vraiment sur le long terme aussi ?
Alors, tout dépend, c'est au cas par cas. Voilà, une personne qu'on va accompagner pour ses démarches, lorsqu'il y a une procédure, il y a violence, ITT, voilà, etc., elle a un avocat. Nous préparons ces femmes lors de leur entretien pour leur avocat, c'est-à-dire... La femme violentée dans toutes ses émotions, négatives, positives, c'est très compliqué. On travaille sur les questions de l'entretien avec l'avocat pour qu'elle puisse se ressaisir, elle va de prendre sa feuille, son stylo, écrire les questions, c'est sa vie, ça lui appartient. Et on l'accompagne aussi au rendez-vous de l'avocat pour que vraiment elle n'oublie rien au niveau de son questionnement. Et ensuite au niveau de la procédure pour les enfants, sa vie, le logement, voilà, tout ce qui va autour... la question de sa vie.
Et il arrive des fois après avoir dirigé une personne, orienté une personne vers des professionnels, elles reviennent vers vous parce que ça n'a pas fonctionné ?
Alors, elles reviennent parce que dû à l'accompagnement, elles reviennent, elles me font part des réponses qu'elles ont eues, des entretiens. J'oriente aussi, ce qui est hyper important, vers une assistante sociale, un travailleur social, pardon. Car s'il y a un problème au niveau budgétaire ou autre, il ne faut pas que la personne, elle aggrave sa situation. Il faut vraiment qu'il y ait des professionnels qui soient à côté d'elle pour l'accompagner à ce niveau-là aussi.
On parle de violence depuis tout à l'heure. C'est uniquement des violences physiques ou ça peut être d'autres types de violences ?
Alors, il y a différentes violences. Ça va être la violence psychologique, financière, administrative, physique aussi malheureusement. Et puis, c'est des emprises qui sont là depuis qu'ils se sont installés au sein de ce couple, depuis des années, souvent.
Quand vous dites violence administrative ou violence financière, expliquez-nous un petit peu de quoi il s'agit.
Alors, financière, c'est lorsque la femme est privée de tout de toute possession financière et que c'est que monsieur qui prend en charge l'aspect financier. Il donne ce qu'il a envie de donner pour faire les courses ou autre. J'ai reçu beaucoup de ces personnes. Administrative, c'est toute possession aussi de droits. Ses papiers sont gardés par monsieur. Elle n'a pas de contact avec les administrations, comme ça peut être les impôts, la caisse d'allocation familiale, la sécurité sociale. Vous voyez, monsieur a plein pouvoir et tout contrôle.
Et la violence psychologique, on se dirige vers quel type de...
Alors la violence psychologique, malheureusement, elle fait très très mal aussi. C'est-à-dire, c'est un rabaissement de la personne. Je vous répète les termes qui reviennent très souvent. Tu es bonne à rien. Personne va te croire. Ça va être des insultes. Ça va être vraiment la dévalorisée à un point où elle arrive à y croire malheureusement après. D'où je vous dis, il faut vraiment qu'elle se ressaisisse, un accompagnement avec un professionnel de la santé hyper important pour qu'elle puisse enlever ce sentiment d'infériorité, cette dépression qui s'installe aussi. C'est très très grave.
Est-ce que vous constatez que malgré votre présence et malgré la présence d'autres associations qui sont là pour aider les victimes, les personnes victimes de violences, est-ce que malgré tout, sur le territoire, il y a quand même une sorte de peur, de crainte à venir vous consulter ?
Alors, me consulter, non, parce que tout ce qui est dit restera dans le bureau, voyez. Et nous, notre objectif, c'est vraiment de les orienter au mieux par rapport à leurs besoins et aussi à leurs demandes. parce qu'on n'a pas forcé quelqu'un à faire une démarche, hein, c'est sa propre décision. Souvent, ce qui est revenu, c'est que lorsque ces femmes ont des enfants, elles ont peur d'aller voir le service social, de peur de se faire retirer leurs enfants, voyez-vous. Donc nous, on est là pour les rassurer et leur dire, écoutez, ce sont des professionnels. Si vous agissez, faites un premier pas, c'est parce que vous souhaitez vous sortir de cette situation. En vous protégeant, vous protégez aussi vos enfants, voyez. C'est la responsabilité en tant que parents. Et on essaie justement de relier ces personnes avec un peu les administrations, parce qu'elles ont elles ont perdu cette confiance. Ça, c'est un constat de terrain.
Et à Mantes-la-Jolie, est-ce que vous pensez qu'il y a une forme de tabou par rapport au sujet des violences intrafamiliales ?
Alors, c'est un sujet qui commence à être un petit peu plus ouvert. C'est long, mais ça commence à rentrer dans cette discipline d'acceptation de pouvoir en parler. Parce que Mantes-la-Jolie, nous sommes un très grand village. On a toujours peut-être le voisin, le copain, la copine, le cousin, la tante, le frère, la sœur qui connaîtra quelqu'un. Vous voyez, donc elles n'osent pas non plus rentrer dans un service identifié parce qu'on va peut-être dire « Bah, tu vois, j'ai vu ta femme, elle est partie là. Ah bon, bah, je suis pas au courant. Monsieur rentre à la maison. On m'a dit que tu étais là. » Voyez-vous, il y a toujours cette forme d'être vu par quelqu'un qui les emprisonne. Et ça, c'est vraiment de la réalité dite par ces femmes.
Et ça, c'est problématique, du coup, dans leur démarche, parce que oui. Ça les retient à venir demander de l'aide.
Oui, et le fait, nous, d'être à la clinique du lac, c'est un peu plus sécurisé, parce qu'elles vont rentrer dans un lieu public, où il y a différents métiers, au niveau des médecins, hein, des professionnels de la santé. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'elles rentrent dans cette clinique, bah, on ne sait pas où elle va, voyez-vous. Donc, c'est moins ciblé.
Est-ce qu'il vous arrive aussi de recevoir des appels en situation d'urgence où là il faut intervenir tout de suite pour aider la personne?
Oui, tout à fait. Il y a une situation d'urgence le 17. Il n'y a que la police qui peut intervenir sur les lieux, voyez-vous, et les laisser faire leur travail. Voilà. Et surtout, moi j'ai un conseil à donner lorsqu'on a une amie, lorsqu'on a une sœur, une fille, ne pas intervenir soi-même. L'accompagner, mais ne pas prendre les décisions pour elle, parce que souvent ça a été le cas, à vouloir bien faire, des fois on fait mal. Donc accompagner-la vers les professionnels qui connaissent bien leur job et leur faire confiance.
Mais le fait d'appeler la police qu'on posait le 17, ça aussi ça peut être un petit frein de temps en temps pour ces personnes-là ? Il peut y avoir une crainte ?
Alors, quand il y a vraiment danger, il faut vraiment, parce que c'est leur vie qui est en jeu. Voyez-vous, c'est vraiment pour les protéger, c'est leur sécurité. Oui, le frein, non, plus maintenant. Je trouve que c'est plus vraiment un frein. Les gens ont quand même comment on pourrait dire ?
Ce réflexe.
Voilà, tout à fait.
On parle beaucoup des femmes, et effectivement, c'est le genre le plus affecté par les violences intrafamiliales. Mais il existe aussi des hommes victimes de violences. Et pour eux, c'est difficile de se confier, de demander de l'aide.
Oui, c'est différent. La démarche est autre, exactement. Car nous avons eu des hommes, c'est vrai, avec beaucoup de timides et de retenue. Ils ont libéré leurs paroles. C'est souvent parce que la femme est violente. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont prendre leur veste, ils vont sortir prendre l'air, elle va peut-être calmer, ils vont rentrer. Et là, souvent, certaines femmes n'acceptent pas le silence du fait que l'homme ne réponde pas. Donc, elle va aller dans la provocation. Et malheureusement, souvent, l'homme se fait gifler, se fait jeter des choses au visage, sur lui, des insultes. Effectivement, oui, malheureusement, on en a.
Alors, on a beaucoup parlé des violences intrafamiliales et c'est votre champ d'action le plus important. Mais vous agissez, vous l'avez dit au début, sur différents... sur d'autres actions, notamment la lutte contre la discrimination, l'homophobie, le harcèlement scolaire. Donc là, pareil, c'est des personnes victimes de discrimination viennent vous contacter. Mais là, c'est pas tout à fait les mêmes orientations, les mêmes accompagnements.
Tout à fait. C'est pas du tout les mêmes orientations. Mais le fait qu'ils ont ce réflexe de téléphoner, les gens, on peut les informer. Où il faut aller, voyez-vous, qui va prendre le relais. C'est une information qui est très importante. Et puis, effectivement, on a beaucoup de personnes qui subissent le rejet de la famille dû à l'homophobie, tout à fait, l'harcèlement scolaire aussi. qui malheureusement a pris de l'ampleur et c'est pas une fois l'année qu'on doit faire une action pour dire voilà attention le harcèlement scolaire. C'est un travail en continu avec l'établissement scolaire et les institutions compétentes autour de ça. Je trouve que c'est très grave aujourd'hui cette violence qu'ont les enfants entre eux. Et je trouve, conclusion de terrain, qu'il n'y a pas assez de choses qui sont mises en place. Et cette conscience qui doit être prise au sein des responsables d'établissements scolaires pour faire cette prévention, cette médiation face à cet harcèlement scolaire.
Et vous envisagez d'organiser des sortes de discussions
Oui, effectivement. Parce que c'est un travail qui est très long et qui est très lourd, je ne vous cache pas. D'ici la rentrée de septembre, on a tout un programme qui est mis en place d'information et de prévention, exactement.
Et donc, en quoi il consiste ce programme? Vous pouvez nous en dire plus?
Alors, ce que nous souhaitons, c'est informer les jeunes de ce que peut vivre la personne qui est harcelée. C'est-à-dire, tous les jours, voilà, on va mettre une petite tape derrière la tête. Bon, on va laisser, c'est aujourd'hui, demain on répète, après-demain, etc. C'est de l'harcèlement. Ces gestes répétitifs au quotidien, c'est de l'harcèlement. Donc, qu'ils puissent imaginer ce que peut ressentir celui qui se fait soit insulter, taper, voler, stigmatiser, parce qu'on a une différence physique, parce que on a une tenue vestimentaire qui va peut-être être différente des autres élèves. Et des fois, ça part de rien, l'harcèlement. Ça peut partir d'une bagatelle, mais ça prend beaucoup d'ampleur.
Vous parliez de projets. Est-ce que vous avez d'autres projets sur la façon dont vous aimeriez agir
pour... Oui, alors agir, je ne vous cache pas qu'on a beaucoup de travail. On a beaucoup de travail d'accompagnement. C'est très bien. Effectivement, parfois, les journées sont trop courtes parce qu'on a aussi un travail d'écrit, d'accompagnement au niveau administratif. Il y a ça aussi. On les accompagne en tant que tiers de confiance. Et le programme, c'est surtout l'information. Vraiment se saisir de ce sujet, de ces violences. Parce que c'est de la violence de subir le harcèlement scolaire. C'est de la violence de subir de la discrimination. C'est de la violence de subir l'homophobie. C'est des choses horribles avec lesquelles ces personnes vivent au quotidien. Et j'ai envie de dire, mais de quoi je me mêle? Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Nous sommes dans un pays de droit, le pays des droits de l'homme. Et souvent, beaucoup l'oublient. Et par rapport à notre programme, parce que nous organisons au fait par rapport aux besoins, hein, surtout, et puis aux demandes, parce qu'on écoute, on est très attentif aux demandes des uns et des autres lorsqu'on les reçoit. Et j'aimerais mettre l'accent aussi sur nos aînés, nos seniors. Car c'est aussi de la violence de subir cet isolement. Ce rejet, parce que c'est une forme de rejet d'être isolé. Et il n'y a pas assez de choses qui sont faites pour accompagner nos seniors et les aider. Je vois, moi, des fois, il y a des personnes, puisqu'elles nous connaissent, elles viennent juste nous voir, bonjour. Elles disent pendant un petit quart d'heure, 20 minutes, comment elles vont, etc. Elles prennent un thé, elles s'assoient. Et ensuite, elles repartent avec le sourire. Vous allez me dire, c'est rien, mais pour elles, c'est beaucoup. Voilà.
Est-ce que vous prévoyez de mener des actions de communication sur le sujet des violences?
Oui, on travaille dessus, effectivement. C'est incontournable parce que c'est un travail, je vous dis, c'est pas une fois l'année, voyez-vous, comme la journée de la femme, le harcèlement scolaire, discrimination, c'est tous les jours. Et donc, cette information, il faut le faire avec les institutions compétentes et il n'y a pas mieux de passer par l'école. L'éducation nationale a cette responsabilité d'information. Elle n'est pas là pour l'éducation, c'est à nous parents d'éduquer nos enfants, mais le complément se fait effectivement au sein de l'école. Il n'y a pas mieux que l'école, voilà.
Mais concernant les violences intrafamiliales qui, là, concernent plutôt les adultes, là, il faudrait communiquer vers quelle structure?
Tout public. Ah, la structure. Eh bien, ce sont les structures qui sont mises en place par les acteurs locaux. Ça peut être les CVS, ils en font un petit peu aussi. Mais c'est au quotidien, je vous dis. On dit les CVS, mais c'est aussi dans les hôpitaux. C'est aussi dans tout lieu public où il faut qu'il y ait cette prise en charge. On parlait même la dernière fois avec différentes personnes, même la sécurité sociale, voyez-vous. La CAF a mis ça en place, où il y a quand il y a des violences, ils ont un service aussi. Voyez-vous, beaucoup de gens ne le savent pas, mais il y a un numéro CAF qui dit effectivement ils ont un service. Lorsque vous subissez des violences conjugales, il y a un numéro à faire et elles sont écoutées. voyez-vous. Il y a le 3919, il y a plusieurs structures qui sont mises en place. Mais il faut informer le public de ces structures qui existent. Voilà.
Dernière question, est-ce que vous recrutez, entre guillemets, d'autres personnes pour vous aider dans vos actions?
Alors, le bénévolat est toujours bien vu, voilà. Il faut vraiment, c'est un sujet tellement délicat, il faut être vraiment très attentif à l'écoute et ne pas donner son avis personnel, voilà. Prendre du recul, être dans l'empathie, avec le juste milieu, parce que des fois on entend des choses qui sont pas très très jolies à entendre, parce que c'est tellement dramatique et douloureux. Il faut avoir un peu le cœur costaud pour faire face à ce genre de sujet.
Mais voilà. Il faut pas nécessairement de diplôme ou de...
Non, vous savez, aimer les gens, il faut pas de diplôme. Le bénévolat, il faut pas de diplôme. C'est la nature humaine qui parle, ce soutien qui est très important aujourd'hui.
Merci à vous, Irène Leblond, d'avoir accepté notre invitation.
C'est moi qui vous remercie.
C'est la fin de cette émission. Vous pouvez l'écouter le samedi à 15h et le jeudi à 19h30. Et vous pouvez également retrouver l'interview en podcast sur notre site internet bpmlaradio.com. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle association. Très bonne journée à l'écoute des programmes de BPM.